Le public n'a pas, comme dans les autres arts, une connaissance suffisante de l'histoire de la danse.
Au cœur du festival.
C'est le festival, bien sûr.
Et c'était Dominique Bagoué, Jean-Paul Montana.
Chorégraphe, danseur, danseuse, réalisateur, réalisatrice.
Montpellier, c'est une ville de danse. C'est un moment intense, charnel.
Au micro de Divergence FM, pour la 41e édition du festival Montpellier Danse.
Manangome, Charles Bagoué, Mathilde Meunier, Christian Rissou. À quelques jours de l'ouverture du festival, je vois bien que quelque chose va se passer.
Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans Au cœur du festival. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, une émission proposée en partenariat avec le festival Montpellier Danse sur Divergence FM, Marie-Pierre Soriano au micro de ces trois émissions construites et pensées avec le festival sur l'esplanade, sur le parvis de l'Agora, ici à la Cité de la Danse. Nous sommes en direct et en public pour une heure. À mes côtés, et je suis très fière de les recevoir, se trouve Elsa Descodins, bonjour. Anne-Marie Porras, bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Fabrice Rabin-Lingom, bonjour.
Bonjour.
Et puis Sylvain Huc, bonjour Sylvain.
Bonjour.
Ensemble et pendant une heure, nous allons aborder tout ce qui concerne leur spectacle présenté ici pour cette 41e édition du Festival Montpellier Danse, mais aussi de ce qui relie certains d'entre vous, c'est-à-dire danser en territoire. Ça a du sens pour certains et certaines d'entre vous ici. Nous reviendrons aussi sur ce que fut ce temps de la création suspendue, ce temps de silence que nous venons de traverser tous ensemble et qui semble important, je pense, pour ce que vous avez à créer, ce que vous avez à dire. Alors, des histoires fortes, pour diverses raisons, vous lient à ce territoire, à cette ville, à ce festival et son équipe. On écoute ensemble un court extrait qui a été extrait d'une vidéo réalisée par France 3 Région. Et puis, je vous laisserai dire votre vision, votre rapport à ce festival, à ce territoire, et puis à cet homme, parce qu'on va l'entendre dans l'extrait, qui est depuis 40 ans à la tête du festival. Et ma foi, c'est pas non plus partout que un poste est conservé pendant 40 ans.
Depuis que je suis très jeune, j'ai toujours senti l'importance, la naissance d'un artiste, l'importance d'une œuvre qui apparaît. Je l'ai toujours senti en moi. C'est une intuition, donc ça vient de loin et on peut pas l'expliquer. On peut pas expliquer pourquoi on aime vraiment cet artiste et qu'il faut absolument le montrer plutôt qu'un autre. L'instauration d'un rapport de confiance avec un public, ça met très longtemps. Il faut sortir du temps médiatique et même, d'une certaine manière, du temps politique.
Anne-Marie Porras, on va commencer avec vous. Vous êtes présidente et directrice d'Epsédance qui forme chaque année des dizaines de danseuses et de danseurs depuis le début des années 80, je crois. Vous êtes ici complètement chez vous et tout à la fois partie prenante de ce qu'est la danse à Montpellier. On ne va pas reprendre la liste des danseurs que vous avez formés puis qui sont passés en tant que soit danseurs, soit chorégraphes pendant les différentes éditions du festival. En fait, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, de votre attachement à ce festival, vous qui habitez ce territoire, vous qui formez sur ce territoire, en fait. Chaque année, ça représente quoi pour vous dans votre travail ?
Pour moi, c'est une histoire de cœur, en fait, puisque ça fait 40 ans qu'existe l'école, donc c'était au moment où Dominique est arrivé, où il a donné des cours à l'école, avec toute son équipe, de cet instant-là. Et Jean-Paul aussi, c'est une affaire de cœur, bien sûr, parce qu'il a toujours ce regard bienveillant sur la jeunesse, sur ses... il parle d'intuition en fait, et il a raison, parce que c'est vrai, parfois on voit quelqu'un arriver dans les studios, c'est peut-être pas quelqu'un qui semble très doué ou très techniquement abouti, mais d'un seul coup on sent qu'il y a une lumière à l'intérieur de cette personne-là et on sait qu'il va se passer quelque chose. Et donc par rapport au festival, moi j'attends toujours impatiemment la programmation, parce que j'apprends beaucoup en regardant le travail des uns et des autres, et je trouve ça magnifique. Et Je trouve ça superbe. Jean-Paul fait bien les choses. Et dans sa programmation, il y a pour tout le monde aussi en même temps, avec de l'excellence. Et ça, je trouve ça magistral. Il dirige ça d'une façon magistrale et il a tout mon respect.
Ça vous arrive de retourner voir des danseurs que vous avez formés?
Ah oui, ah bah oui, chaque fois. Là, dernièrement, c'est Thomas Lebrun, il y avait un ancien élève.
Qui a commencé à l'Est, oui, carrément, pour avant d'arriver là.
Oui, voilà, chaque fois, dans presque toutes les compagnies. Évidemment, en 40 ans, on fait plein d'enfants. Hein.
Ouais.
Et puis, j'ai la chance d'avoir une équipe pédagogique avec moi qui est vraiment magnifique, qui est superbe. Et puis, tant que je peux, j'essaye de voir qui je peux inviter pour cette jeunesse-là, pour qu'enfin ils puissent épanouir l'arc-en-ciel de leur création, comme ça, ils doivent se nourrir, ils doivent apprendre, et puis s'envoler, bien sûr.
Mmh. Alors vous dites que ce festival, en fait, il nourrit votre propre travail, parce que vous y découvrez chaque année des choses incroyables, en fait, sans fausse pudeur et sans fausse modestie entre nous, on n'en est pas là, j'espère, mais est-ce que cette année, il y a quelque chose qui s'est dégagé pour vous, un spectacle avec lequel vous repartez différente en fait?
Ah ben, cette année c'est compliqué pour moi parce que en fait comme j'accompagne la compagnie junior pratiquement tous les soirs, je peux pas voir
les
spectacles. J'ai vu que Thomas Lebrun en fait et je vais voir Salia Sanou qui est un vieux complice aussi puisqu'on est parti en Afrique avec lui chez lui.
Germaine,
on a fait et puis Germaine Aconi aussi.
Germaine,
voilà, donc en fait c'est un petit peu tous les horizons comme ça et je pars avec une équipe de jeunes comme ça et surtout pour que eux ils apprennent autre chose et qu'ils découvrent, qu'ils arrivent à découvrir quelle est la personne qui va les nourrir et qu'est-ce qu'ils veulent faire, quelle est leur projection. Pour moi, c'est fantastique.
Mais oui. Elsa Descodin, vous êtes la directrice artistique et coordinatrice de la structure PULX, c'est comme ça qu'on dit, PULX.
PULX.
Merci pour l'aide. Qui propose de faire frictionner entre elles diverses écritures et univers artistiques. Nous y reviendrons tout à l'heure, bien sûr. Et vous êtes basée ici même à Montpellier.
Tout à fait.
Vous vivez en quelque sorte de l'intérieur cette drôle de bête à deux têtes qui est le CCN et puis le reste de l'équipe de Montpellier Danse en fait. Ce moment dans l'année, il représente quoi pour vous, ce festival, ce territoire aussi?
Moi je suis pas d'ici, donc je suis arrivée, j'ai choisi de venir à Montpellier parce qu'il y avait ce temple de la danse entre guillemets quoi. Il y avait la réunion d'un assez incroyable d'un centre chorégraphique national couplé avec un festival et donc vraiment un centre de la danse, ça pulsait la danse contemporaine. Donc je pense que c'est le festival, c'est un peu le point d'orgue international puisque c'est le centre, le point d'orgue.
Pardon, les aléas du direct. Donc vous disiez, c'est le point de rencontre de public et de pas mal de spectacles. C'est ça que vous étiez en train de dire?
Oui, c'est d'un seul coup. Il y a un moment dans l'année qui fédère. Parce qu'on entend parler partout, parce qu'il y a une réunion de communication, de médias, de compagnie, d'un public. C'est le début de l'été, c'est le début des festivals.
Oui.
Et ça résonne, quoi. Et donc, d'un seul coup, il y a une place pour la danse qui est quand même pas si fréquente.
Vous portez un regard sur le travail de Jean-Paul Montandari qu'on a entendu dans l'extrait, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez déjà une analyse de ses choix de...
Bah, je pense que c'est... C'est pas facile d'être programmateur et d'être directeur d'un festival, de sentir l'air du temps.
Et peut-être même d'avoir un temps d'avance sur cet air du temps.
Oui, voilà, je pense que c'est difficile.
Ok. Fabrice Ramalingam, vous avez débuté au CCN d'Angers, je crois.
Ça marche pas. Voilà, donc celui-là, les aléas du direct, comme vous disiez.
Oui, c'est ça, mais si on le dit toute l'émission, c'est pas rigolo du tout.
Donc, j'ai commencé au CNDC d'Angers.
D'accord.
Le Centre National de Danse Contemporaine d'Angers. Je me suis formé là-bas.
D'accord.
C'est devenu ensuite un centre chorégraphique, mais à l'époque, c'était une école et un lieu de résidence pour les compagnies.
Ok. Et puis après, vous avez fini par rejoindre le CCN de
Montpellier. Après, j'ai passé une audition pour Dominique Bagoué et j'ai été pris dans sa compagnie. Et donc, je suis venu en 88.
Ok.
Et j'ai découvert cette ville avec ce festival.
Et donc ce festival, il représente quoi?
Non, d'abord
dans
la ville, c'est incroyable. C'était incroyable une ville comme ça qui était vraiment ouverte sur la danse et qui accueillait la danse. et qui avait, c'était une ville de danse en fait. Et c'était fantastique de commencer une aventure avec cette personne en Dominique Bagoué, qui était ouais. Quand même une personne ravissante. C'est-à-dire, c'était quelqu'un de très doux, de très attentif, de bienveillant, et en même temps de très radical dans son dans ses choix. Et si ce lieu qui est derrière nous existe, c'est grâce à lui.
Bien sûr.
Et il a tenu tête à Georges Frêche, puisque Georges Frêche voulait faire un centre chorégraphique en dehors de Montpellier, et Dominique a tenu tête pour qu'il soit ici dans les murs de la ville.
Et donc ça, c'est des moments que vous avez vécu, vous?
Oui, je me souviens même de Jack Lang qui est venu pour regarder le lieu et pour donner son accord pour que ce lieu-là existe et qu'il était adéquat.
Du coup, ça a un sens particulier pour vous de présenter une création ici à Montpellier?
Ah bah, tout à fait, tout à fait, oui.
Vous savez le définir?
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme Elsa, j'ai choisi cette ville. C'est-à-dire que même si je suis venu travailler pour Dominique Bagoué, je suis parti à son décès. Mais je suis revenu dans cette ville parce que c'était la ville dans laquelle je pouvais m'épanouir en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'artiste. Que j'ai fait un gros travail aussi de territoire,
oui.
Ici, mais aussi aux alentours, en Occitanie, maintenant en Occitanie, mais à l'époque en Languedoc-Roussillon, et que j'ai formé des publics, j'ai formé des professionnels, mais j'ai aussi formé des publics, puisque au centre chorégraphique, je donnais des cours, que ce soit sous Dominique Bagoué, sous Martin Monnier, ou après pour Exerce. Donc je suis partie prenante de cette histoire-là, quoi, en fait.
Ok. Et puis enfin Sylvain Huc, même question que les autres. En fait, vous avez fait vos classes à Toulouse, je crois. Et puis votre compagnie qui s'appelle Divergence aussi. Pas du tout. Non, pas du tout. Okay. Et désormais encore basé à Toulouse, mais vous allez me corriger. J'ai besoin d'être corrigé en permanence. Vous êtes ancré dans cette région qui est l'Occitanie et Montpellier Danse dans votre travail. C'est perçu. Vous le percevez comment? C'est un moment qui représente quoi pour vous?
Alors non, Divergence, cette page-là est terminée.
D'accord.
Je vais pas m'étendre longtemps là-dessus, c'est pas forcément très intéressant. Maintenant, je porte mes projets et je les réalise dans une nouvelle structure qui s'appelle la compagnie Sylvain Huc. Voilà, je crée tout simplement mes projets sous mon nom, beaucoup plus simple. Alors moi, j'ai un autre parcours aussi. La danse est arrivée beaucoup plus tardivement dans ma vie. J'avais déjà 23 ans. Je suis historien de formation. J'ai fait tout à fait autre chose avant. Et donc j'ai un rapport à la danse qui est tout autre. J'ai un rapport au corps et au mouvement qui est tout autre aussi. Enfin, qui est tout aussi singulier que pour chacun, mais qui m'est propre. Et Montpellier, moi j'y suis venu la première fois avec une pièce en 2018. Et je crois que finalement, ce qui m'a été très précieux aussi, c'est une forme de naïveté vis-à-vis de cette histoire-là. C'est vrai que je ne m'inscris pas dans cette, ou alors c'est malgré moi, dans cette filiation, cette histoire de la danse, tout ce paysage-là. C'est vrai que j'y suis venu non seulement tardivement, mais avec une certaine inconscience aussi, avec une certaine ignorance que je comble là, petit à petit. Je fais de mon mieux pour combler mes lacunes dans la culture de la danse. Mais c'est à la fois une force, c'est à la fois aussi, j'ai déboulé ici avec une fraîcheur et une naïveté qui a été aussi une arme, parce qu'on est très exposé ici. Je l'ai quand même compris quand je suis arrivé pour cette pièce en 2018, une pièce qui s'appelle Sujet. J'ai bien compris aussi qu'on est, c'est un lieu où on est exposé, mis en fragilité, même si le festival est là pour nous accompagner. Et ça, c'est ça que je peux dire, c'est que pour le coup je me sens très accompagné, très soutenu par le festival et par sa direction, à savoir Jean-Paul Montanari, Gisèle Despuccio et toute l'équipe. Et ce que j'ai senti, c'était ça. C'était une confiance absolue, en fait. Du moment où on me confiait où on m'invitait à créer une pièce, il n'y avait pas de question. C'était quelque chose d'absolu, quoi. Or, c'est pas si fréquent.
Oui.
Or, c'est pas si fréquent. J'ai pu en discuter avec certains autres chorégraphes. Ouais, c'est pas si fréquent. On sent qu'il y a parfois, c'est un endroit compliqué, quoi. La création, avec les attentes qu'il y a, les attentes à la fois artistiques, à la fois politiques, à la fois vis-à-vis des publics. Ouais, c'est pas rien. Or, cette confiance-là, elle est absolument essentielle, quoi. Si on est tout le temps en train de remettre en question la manière qu'on a d'aborder la création. C'est impossible d'avancer, quoi. À un moment, il faut se concentrer, il faut se focaliser, il faut sentir cette confiance-là pour avancer à tout prix et être au plus près de ce qu'on veut artistiquement, adhérer, je dirais, au plus proche de, en tout cas pour moi, de ma démarche qui est la mienne. J'ai besoin de ça.
Est-ce que c'est un moment qui vous permet de vous nourrir des univers des autres chorégraphes, en fait? Vous avez le temps d'aller voir d'autres spectacles?
Oui, absolument. Alors moi, particulièrement cette année, je suis arrivé bien plus tôt que une semaine avant de jouer, de reprendre et de jouer ma création. Et je repars demain matin, donc je suis resté aussi pour voir les travaux des autres compagnies. Donc bien sûr que c'est inspirant, bien sûr que c'est nourrissant. Pour moi, c'est important en tout cas, voilà. Okay. C'est indispensable.
Ok. Alors avant d'entrer dans les pièces, dans les univers de chacun, en fait, on va essayer d'affiner ce qui est pour chacun. Comment vous définissez chacun votre définition de la danse, en fait? Comment elle est entrée dans votre vie et comment vous êtes légitimé à en faire une pratique professionnelle? Avant ça, on écoute un court extrait, là encore.
Pour moi, la danse, c'est un langage. Enfin, on ne raconte pas le même type de choses qu'avec des mots.
Je me souviens, au début, lorsqu'on dansait, il n'y avait pas beaucoup de monde qui pariait sur nous, quoi, sur cette culture, sur cette danse.
Je crois qu'on peut se renouveler dans la mesure où on aime les autres et dans la mesure où on s'enrichit au contact des autres. Lorsqu'on reste soi-même, on est vraiment très limité et pas grand-chose.
Découflé, Kaderatou et Béjart. Voilà, qui donnent chacun une petite touche de ce qu'ils pensent être, dans une interview, la danse. Et ben voilà, en fait, on va commencer par qui ? Anne-Marie ?
Si tu veux.
Comment la danse est entrée dans votre vie?
Une façon de s'exprimer sans parler. En fait, j'ai du mal à parler, de trouver les mots justes parfois, comme ça. Tandis que je trouve que le corps ne ment pas. Moi, j'aime la danse tribale, en fait.
D'accord.
J'aime quelque chose qui est un peu sauvage. Et c'est peut-être pour ça tous les voyages en Afrique et vers ces contrées-là, parce que il me semble que ces personnes-là, quand elles bougent, elles ont quelque chose de tellement vivant qui me touche à travers la peau, comme ça. La danse, pour moi, c'est l'émotion, de l'émotion. Je n'intellectualise pas du tout, en fait. Si je vois quelqu'un, même s'il ne bouge pas, mais que je reçois quelque chose, que mon cœur se met à battre plus vite. Pour moi, c'est ça, la danse.
Ta danse, déjà.
Ouais. En fait.
Et du coup, c'était facile à légitimer comme pratique professionnelle dans votre entourage, dans votre histoire de construction?
Non, c'était compliqué. Parce qu'en fait, je ne sais pas d'où je viens. Ce que je sais, que je pratique toujours la danse jazz, parce que pour moi, c'est toujours quelque chose de libre.
Oui.
Comme ça, c'est la liberté, en fait.
Moins codifié, c'est ça que vous diriez?
Moins codifié, j'aime pas trop les codes et tout ça, j'aime la liberté.
Oui.
Voilà, donc c'est pour ça que je trouvais cette liberté vers l'Afrique, vers la danse jazz, etc. Et puis en fait, je me rendais compte que lors de mes nombreux voyages vers les États-Unis, je commençais toujours à prendre des cours de jazz et puis je me retrouvais chez Cunningham ou chez Martha Graham. C'est bizarre. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi, en fait. C'était entre les deux. Et après, ça a été la rencontre avec d'autres chorégraphes qui ont fait que je suis arrivée à faire un métissage d'une écriture que... Les jazz me disent, tu es hybride. Les contemporains disent, non, tu n'es pas du tout contemporaine. Et puis, en fait, je ne sais pas où j'habite, mais je me sens très bien comme ça.
Très bien, merci. Sylvain, Hugues, présent. La danse, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, en fait, c'est rentré tard dans votre vie. Alors, par quel biais, par quelle porte? Est-ce que c'est l'histoire d'une rencontre? Est-ce que vous avez toujours dansé? Mais voilà. Et puis, comment vous la définissez? Et qu'est-ce qui vous a permis de vous légitimer à un moment?
Alors, ouais, la danse, elle est arrivée très tardivement. Je fais abstraction des moments où, à 5 ans où je dansais comme un dératé sur Bonnem quand mes parents n'étaient pas là. Voilà.
Les meilleurs moments, en l'occurrence.
Ouais. Pas mal. Parmi les meilleurs. Oui. Voilà. Et puis après, il y a eu un grand vide dans lequel j'ai pas, voilà, je me suis pas du tout. Enfin, j'ai pas eu l'occasion de m'intéresser ni à la danse, ni au spectacle vivant, ni au théâtre. Tout ça m'était, mais c'est lié au contexte dans lequel j'ai grandi. Et puis, effectivement, à 23 ans, je découvre totalement par hasard. J'avais jamais dansé. J'avais quelques images dans la tête, des représentations de la danse qui étaient très limitées. Et puis je découvre par hasard un spectacle d'Anne-Thérèse Casmaker qui s'appelle Drumming, sur une musique de Steve Reich. Et là, je découvre, c'est un monde qui s'ouvre à moi. Voilà, c'est un espace totalement, totalement autre. Je vois des gens bouger comme jamais j'ai pu en voir. Je comprenais rien. En même temps, c'était un espèce de séisme intime qui m'a ébranlé. Il m'a fallu du temps pour en mesurer la magnitude, ouais. Sur je ne sais quelle échelle. Mais en tout cas, ça m'a pris du temps. Et j'ai commencé ensuite à prendre des cours en amateur. Puis ça s'est enchaîné très vite. J'ai pu rapidement me former au CDC de Toulouse à l'époque, qui avait une formation de quelques mois. Ça a fonctionné, j'ai pu commencer à danser pour des chorégraphes plutôt de la région, jusqu'à ce que je décide de tenter de chorégraphier, de faire mes projets. Voilà, mais si je reviens un peu en arrière, d'emblée, la danse pour moi, c'était pas tant une histoire de danse. Je dirais même que je travaille pas la danse, je travaille avec la danse. Pour moi, la danse, c'est l'outil avec lequel je bosse. Okay. Ce qui m'intéresse, c'est le corps. Ouais. Moi, c'est plutôt le corps qui m'intéresse. Mmh. Les représentations du corps, cet endroit, cette chose étrange qui est à l'endroit où se croisent des enjeux à la fois totalement insaisissables, totalement irréductibles, esthétiques, artistiques, politiques, sociaux, culturels. Enfin, le corps est une espèce de construction, en même temps que c'est une chose. Insaisissable. Pour moi, je suis toujours en recherche, sur ça, avec ça. Ouais. Donc, à nouveau, voilà, je situe ma recherche plus à l'endroit du corps que de la danse. Mais c'est aussi lié à mon parcours et le fait que j'ai pas été pétri de cette d'une culture aussi. J'ai commencé à danser très tard. C'est lié à tout ça, c'est lié à mes études en histoire aussi, où je travaillais sur les représentations du corps en histoire grecque. Donc à la fois rien à voir et en même temps je m'intéressais déjà à des choses qui étaient de cet ordre-là. Et du coup, oui, la légitimité, elle a été longue à trouver. Et puis il y a eu un moment où effectivement je crois que j'ai lâché ça. Et à me dire que ma recherche... elle était définitivement à l'endroit du corps et que, quelle que soit la forme que ça pouvait prendre, c'est vital pour moi. Donc j'ai besoin de le travailler, j'ai besoin de le mettre en forme, en fait. Okay. Ça ne veut pas dire que c'est formel, mais j'ai besoin de le mettre en forme, j'ai besoin de lui donner une forme.
Ok. Elsa Descodin, pardon, présente aussi. Ça dort au fond de la classe. Il fait très très chaud.
Non, en fait, tout ce que dit Sylvain résonne, parce que moi non plus, je ne viens pas du tout de là. Moi, j'ai un diplôme d'ingénieur en mécanique des fluides.
Ok. Oh, bah, c'est pas si éloigné que
c'est
ça,
alors.
C'est
pas si éloigné que ça. Comme... Chacun après fait son trajet pour expliquer pourquoi la danse aujourd'hui. Moi, je me disais que j'étais toujours dans des questions de légitimité, par contre. Ça travaille toujours. Et pourquoi la danse, bah, pareil. Moi, je viens d'un milieu rural, le Pas-de-Calais, très éloigné de on va dire des théâtres, de toute cette vie. Et moi, j'ai découvert la danse contemporaine très tard aussi, quand j'ai commencé mes études à Lyon. Et pareil, Lyon, la découverte de tout, la découverte de la Maison de la Danse, de la Biennale de Lyon, et puis un spectacle de Caroline Carlson. Et puis pareil, une sorte
De déclic,
de stupéfaction, sidération, de précipitation à la FNAC pour acheter à l'époque, les DVD.
C'est bon, c'est ok, je connais ça, je connais le DVD.
Et puis, la pièce Lady Blue, pour moi, qui est de Caroline Carlson, qui pour moi est complètement extraordinaire, enfin vraiment qui résonne encore en moi, je la regarde encore régulièrement, tellement c'est, dont le langage de ce corps m'a parlé, le langage de cette femme, ce qu'elle raconte pendant son solo m'a touchée à cet âge-là, mais m'a touchée enfin, régulièrement, me touche en fait, parce qu'elle l'a écrit dans une étape de sa vie, et j'ai l'impression qu'effectivement c'est une pièce... en tout cas pour moi assez fondatrice. Après j'ai découvert tout le monde, je me forme encore et toujours, et pour moi la danse c'est de ce fait c'est un langage, et ce qui m'intéresse particulièrement quand je travaille avec des danseurs, des gens, des habitants, des amateurs, parce qu'il faudrait définir un peu le mot amateur je crois,
oui.
C'est de voir en fait ce qui se lie, ce qui se dit, ce qui s'échappe de leur corps, et que moi je trouve tellement beau. Et j'essaye, je transmets comment écrire une danse avec leur singularité et ce langage qui leur est propre, la singularité de ça. Qu'est-ce qui motive tel geste, comment l'écrire, comment le suivre.
On y reviendra. Fabrice Ramalingon, alors j'ai cru comprendre qu'il y avait une sombre histoire de John Travolta.
Une sombre histoire, non, une lumineuse histoire, au contraire. Non,
j'avais c'est... Thomas Lebrun la semaine dernière qui lui partait de Michel Drucker. Donc tout est solaire, c'est ouvert.
Eh bien on est proche alors, puisque oui. Moi c'était plutôt dans ma famille, c'était les fêtes puisque je suis une famille réunionnaise, malgache, française, avec pas mal de mélanges. Et donc quand on se retrouvait, on faisait vraiment des fêtes dansantes, quoi.
Okay.
Donc il y avait la danse quand même chez nous. Mais quand même, mon père séparait bien ce qui était de l'ordre de la
bien
danse,
sûr, bien
et
sûr.
Donc la fête, bien et sûr. Ce qui était du travail et de la vie. Quoi.
Bien sûr.
Et moi, finalement, j'étais absolument branché sur tout ce qui était danse depuis le début à la télévision. Quoi. Donc Michel Drucker, non, pas du tout. Avec Claude François d'abord, puis après avec Travolta. Mais mon père voyait bien que je tournais mal quoi, avec ça. Et donc il me disait, si tu continues à danser, je vais t'inscrire à un cours de danse. C'était la
menace.
C'était la menace. Donc, du coup, j'ai bien compris que les cours de danse étaient interdits pour moi.
C'est fou ça.
Voilà. Et puis, finalement, je continuais à danser dans les fêtes. Et puis, j'ai rencontré des amis plus tard, et dont l'un qui était ex-danseur de l'Opéra de Paris, et qui m'a vu danser, qui m'a dit, mais en fait, tu es danseur. Je savais pas ce que voulait dire. Et puis j'ai été prendre des cours de danse avec ma sœur ensuite, simplement pour accompagner, pour une remise en forme après un accouchement. Donc j'ai accompagné comme ça bêtement. Moi je faisais de l'aviron à l'époque. Et voilà, donc j'ai accompagné. Et la prof de danse m'a regardé et m'a dit « Toi t'es danseur ». Donc ça faisait la deuxième personne ouais. qui me disait ça. Je me disais « Bon, peut-être je pourrais essayer là ». En plus, à l'époque, je bégayais beaucoup. Je parlais pas. J'étais très enfermé, j'étais très timide et je bégayais quand je parlais. Donc, du coup, c'était un endroit où je pouvais m'exprimer.
Sans les mots.
Sans les mots, ouais. Et ça a commencé comme ça, en fait. Et quand je suis arrivé sur les planches, tout d'un coup, j'ai eu un flash. Là, je me suis dit, en fait, c'est là que j'ai envie d'être. Donc, en fait, pour moi, la danse, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord l'étape sensuelle,
ouais.
Dans la famille. Ouais. Ensuite, il y a cette chose de reconnaissance, tout d'un coup, comme Travolta dans La fièvre du samedi soir, où on le reconnaît en tant que danseur.
Totalement.
Voilà. Là, c'était sur scène, reconnaissance. Et puis ensuite, il y a eu cette histoire de vouloir développer ça comme un travail. Et là, ça a été plus compliqué, parce que la prof de danse, quand je lui ai dit « Ouais, je veux faire ça comme boulot », elle m'a dit « Bah, super, c'est génial, mais maintenant, tu reviens plus chez moi. Tu vas à Paris, tu vas prendre des cours. » Là encore, coup de chance, un copain d'un copain qui était le danseur soliste de Caroline Carlson, Larry Exxon, qui m'invite à prendre ses cours. Et quand je prends ses cours, il me dit « Mais tu sais, il y a un stage de Caroline Carlson, après tu devrais prendre le cours de Caroline. » Effectivement, c'est un personnage incroyable, quoi. Qui m'a dit, et ça c'est une phrase que je porte toujours, « Si t'as pas confiance en toi, personne n'aura confiance en toi. » Voilà, et moi ça a commencé comme ça, quoi. Et dans ce stage-là, j'ai rencontré des copains qui m'ont dit « Ben, on peut faire de la danse, on peut s'inscrire dans des écoles en tant que boursier, donc le CNDC d'Angers. » Voilà. Et alors, dans le degré de la danse, pour moi, il y a la sensualité, effectivement, il y a le travail, il y a danseur, puis après, il y a le travail du chorégraphe qui est encore autre chose, qui est le questionnement des corps dansants dans la cité, la représentation de la danse aussi, la représentation du corps dansant. Et ça, c'est encore autre chose. C'est une autre affaire, quoi.
On y reviendra. Anne-Marie, On va débuter avec vous quant à votre place au cœur de cette 41e édition du festival. Les danseurs en formation professionnelle à EPC Danse que vous dirigez dansent dans tout le territoire de la métropole et même au-delà, dans tout le département, je vais dire. Cette pièce qui a été donc créée et écrite par Kader Atou, The Roots, qui est une pièce qui est en quelque sorte un hommage archi solaire. Moi, je suis une grande fan du travail de Kader Atou. C'est un hommage vibrant sur l'histoire du hip-hop, en tout cas les 30 dernières années, en fait. Racontez-nous cette aventure qui vous lie tout à la fois à Kader Atou, à sa danse, en fait. Et donc, comment on transmet dans ces moments-là, en fait ? Est-ce qu'il a eu un regard sur ça ou pas du tout ? Est-ce que c'était une histoire de confiance ? Et puis, aux danseurs qui suivent la formation pro chez vous, comment tout ça s'articule, en fait ? Comment est née cette création ?
C'est une vieille histoire avec Adair. En fait, moi, j'étais programmée à la maison de la danse avec des gitans. L'été Camélie, avec qui on a fait une création qui s'appelait Les Fils du Vent. Et Kader, il était avec Mourad à cette époque-là, dans sa compagnie Acro-Rap. Et on était programmés ensemble, il faisait la première partie et nous la deuxième partie. En fait, ça a commencé comme ça avec Kader. Et puis on ne s'est pas vu pendant très longtemps. Et puis après, j'ai vu son travail, il était séparé avec Mourad. Ouais. Et j'ai flashé totalement sur The Roots. Enfin, j'aime beaucoup la poésie de ses pièces. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie et j'aime beaucoup sa respiration. J'aime parce qu'il y a quelque chose de performant dans sa danse, mais il y a des instants vraiment de respiration aussi, de grande poésie, vraiment. Et je lui ai dit, écoute Kader, il faut que tu viennes voir les gamins là, du Faubourg Fillol, parce que vraiment, je suis sûre que tu peux faire quelque chose. Je voudrais The Roots. Je crois qu'il m'a fait attendre 3 ans. Hein.
Ah oui.
Ah oui.
C'est pas facile la vie de star.
Je crois oui, parce qu'il pouvait pas, il n'avait pas le temps.
Okay.
Et puis finalement, un jour, il m'a dit oui. Voilà. Et donc, on a un ancien élève qui s'appelle Virgile Dagneau, qui est maintenant chorégraphe, bien sûr, et puis assistante de Kader. Et ça s'est fait comme ça. Et la distribution a été faite avec un groupe que j'ai extrait, enfin, qui me semblait le plus approprié, comme ça, qui était prêt à la composition, l'improvisation aussi, et qui connaissait bien le côté urbain. Et puis après, ça a été très simple. Hein. Ça a été très simple. Il y a eu une transmission. Et
qu'est-ce que vous vouliez garder absolument
l'authenticité
pour transmettre au public?
Je voulais garder l'authenticité de Kader, cette écriture-là, qui est soit urbaine, soit hip-hop, mais tellement contemporaine aussi.
Ouais.
Donc c'est pour ça que j'aime son écriture à Kader. Et il est vraiment super avec les jeunes.
Dans mon souvenir, il était un soir où vous avez joué avec les jeunes gens dans le hall du Quorum.
Oui.
Et Kader Atou était là.
Bien sûr, et il va revenir là. Hein.
Et le dialogue entre Kader Atou et le travail fini là, vous le jouez en ce moment, c'est quoi le propos ?
Oui, il était bluffé.
Ouais, ouais,
oui,
ça se voyait,
totalement
ça
bluffé
se voyait.
Parce qu'en fait, ce ne sont pas des danseurs hip-hop que nous avons au
Tout
studio.
Hein,
ce ne sont pas des danseurs hip-hop, c'est plutôt des danseurs contemporains, en fait. Mais j'avais envie, comme quand on est allé chez Salia ou chez Germaine, j'avais envie qu'ils se frottent un petit peu à d'autres écritures, parce que c'est important, quand même. Et il a été bluffé de voir à quel point ils arrivaient à marier un petit peu ces mouvements-là, ces gestes.
C'est une histoire de réappropriation, finalement.
Oui.
De réécriture.
Oui.
Ok. Bon, et ça fonctionne.
Ça
fonctionne très bien.
Ça, il leur a fait confiance. Les danseurs, ils étaient complètement fascinés par Kader. Ils le sont toujours. Ils l'attendent impatiemment. Je sais qu'il arrive, là, bientôt. Oui. Non, c'est une belle histoire, hein, Kader.
Bon.
Ah oui.
Alors, on a souvent entendu Jean-Paul Montanari raconter à quel point une de ses missions ici, dans cette ville de Montpellier et à la tête du festival Montpellier Danse, aura été d'éduquer, c'est comme ça que lui dit en fait, d'éduquer les publics, d'apporter la danse contemporaine sous toutes ses formes à tous les publics. Alors c'est un sacré défi, est-ce qu'on y arrive, est-ce qu'on n'y arrive pas, ça c'est une autre question. Mais chaque année sont proposées, par exemple, voilà, des grandes leçons de danse, les spectacles en territoire, qui sont apportés dans des lieux, on en parlait juste avant l'émission, qui sont pas du tout conçus pour la danse. Hier vous faisiez un ulcère à l'idée que vos danseurs et vos danseuses se brûlent les pieds, par exemple. Et est-ce que vous avez tous participé à ce genre de moment, de contribution, en fait, dans l'espace public, à porter la danse là où on l'attend pas, en fait? Fabrice?
Toi aussi, non?
Oui, Sylvain aussi, oui. Ouais.
Oui, j'ai fait ça. Au tout début de l'ouverture de l'Agora, j'ai proposé à Jean-Paul de mener les cours du lundi soir ouvert aux amateurs. Donc j'avais déjà lancé cette chose-là de dire il faut peut-être aller aussi dans ce sens-là, transmettre des techniques, des savoirs, des esthétiques pour donner envie, en fait, pour que les publics apprécient davantage ce qu'on fait, nous.
Ouais.
En fait, c'est une règle que je me donne, en fait. Je me dis, si moi je le fais pas, qui peut le faire pour que ce public qui vient me voir comprenne à peu près ce que je fais? Donc voilà, donc je le fais, et je le fais d'une façon, je le fais très volontiers.
Et dans ce genre de moment, vous recevez quoi, vous, en tant que chorégraphe?
C'est surprenant, en fait. Je repense à ce que disait Elsa tout à l'heure. C'est surprenant parce que on est attrapé à des endroits qu'on n'attend pas. C'est-à-dire, certes, ces personnes n'ont pas la technique d'un danseur professionnel, n'ont pas la conscience du mouvement, n'ont pas le travail de la présence au plateau, mais il y a des choses qui leur échappent, qui est magnifique. Mmh. Tout d'un coup, ils sont dans le mouvement totalement, et ils sont portés par ce mouvement, et tout d'un coup, il y a un geste qui leur échappe et qui est d'une presque naïveté ou une maladresse, mais qui est plein de beauté. Ouais. Et ça, c'est... en tout cas, moi, ça m'a toujours... J'ai le souvenir d'un danseur assez vieux, un peu bûcheron comme ça, qui avait pris un atelier avec moi, et tout d'un coup, il avait levé des bras, il avait des grosses mains, il avait levé les bras, il avait pris l'espace bien mieux que les danseurs avec qui je travaillais à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il remplissait de lui tout l'espace.
Ok.
Ouais.
Sylvain Hugues, sur la même question, en fait.
Moi, depuis pas mal d'années maintenant, je fais ce travail-là, effectivement. Alors, Jean-Paul, j'espère qu'il m'entend pas.
Peu de chance, tout de suite là maintenant, peu de chance.
Ouais, bon, d'accord,
peut-être un peu plus tard.
Je vais me lâcher alors.
Ouais.
Alors, moi, j'aime pas ce mot-là, éduquer. J'ai pas envie d'être dans cette place-là, d'éduquer les publics. J'aime bien penser que le public est en immersion dans la pratique et que je partage une expérience avec lui. Éduquer, c'est autre chose. Moi, j'estime que le public, il est émancipé. Les spectateurs sont pas des sous-spectateurs qu'il faudrait éduquer. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Ils sont tout à fait capables de voir quelque chose, de le mettre en rapport avec d'autres choses qu'ils ont pu voir, lire, entendu, vivre. Que ça leur plaise ou pas, c'est pas la question, mais en tout cas, ils sont capables de goûter à cette expérience-là. Ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, alors moi, j'ai pu donner une grande leçon de danse en 2018 quand j'avais été invité pour une précédente création. C'était assez jubilatoire de faire ça avec beaucoup de monde et dans l'espace public, mais c'est vrai que je poursuis ça, j'aime beaucoup, je donne pas de cours en tant que tel, mais des ateliers, des moments de recherche, oui, où je partage ma pratique, et c'est vrai que ça a été un sacré laboratoire pour moi, en définitive, de travailler avec des personnes amateurs, entre guillemets,
oui.
Pendant des années, j'avais un atelier comme ça aussi régulièrement. Et ça a été pour moi, c'est là, ouais, où j'ai pu travailler des choses, incuber, faire mûrir plein d'outils, plein de choses autour du corps, du travail en groupe, de ce qui fait mon travail aujourd'hui. Ça s'est forgé aussi dans ces moments-là, dans ces espaces-là, ouais. Totalement.
Alors, avant d'en venir à vous, Sylvain, justement, et les représentations de votre dernière création qui s'appelle Nuit, qui a été présentée au public ici du 30 juin au 2 juillet, en fait, et parce que ça me semble totalement en adéquation avec la question que je vais maintenant poser, j'aimerais vous demander à tous, donc sauf à Sylvain, pour l'instant, comment vous avez vécu ce temps arrêté à cause de la pandémie, ce temps de rupture sociale, de silence. Ce temps suspendu, en fait, est-ce que, alors dans le programme de Montpellier Danse, Jean-Paul Montanari et Marie Reverdy, qui est dramaturge ici et qui écrit le programme, en fait, une partie du programme, cite Hannah Arendt, et notamment sur une partie qui dirait en substance à la création est absolument nécessaire le silence et le retrait, en fait, du point de vue d'Hannah Arendt. Est-ce que ça a été perçu et vécu comme ça pour vous, ou c'est vraiment, ça a vraiment été un temps compliqué, Fabrice?
Ça a été hyper compliqué, en tout cas pour moi, puisque la pièce que j'ai présentée cette année au festival, je la préparais depuis 2017. Je devais la montrer en 2019. Je n'ai pas réussi à réunir les danseurs à ce moment-là. En accord avec Jean-Paul Montanari, on s'est dit qu'on la ferait en 2020. Je me mets au travail en février 2020.
Mauvaise idée.
Voilà. Et bing,
Mars 2020,
ça suspend, mais on ne sait même pas quand est-ce qu'on va reprendre.
Complètement.
Et étrangement, donc, la pièce que j'ai présentée parle de...
Frérocité.
C'est ça, Frérocité, parle de le maximum de gens dans un espace confiné.
Surpopulation.
Voilà, sans se regarder, sans se toucher.
C'est un cluster, votre truc.
Exactement. Donc c'était très très étrange, quoi. C'était assez bouleversant de sentir une chose qui soit si proche dans la question que je pose dans le travail et la réalité. Et quand on a voulu reprendre, on n'a pas pu reprendre, en fait. On n'a pas pu reprendre à l'automne, puisqu'il y avait le BIS, c'est le festival BIS. J'ai pas pu le remonter. Et donc là, j'ai remonté après un an, quoi, quasi un an, on s'est remis au travail. Ce que je voulais juste dire, c'est que il y a une chose qui s'est passée, et on en parlait justement avec Sylvain Huc, avec Maud Le Pladec, je sais plus qui était avec nous. Il s'est passé quelque chose quand même il y a quelque chose qui a bougé pour nous entre artistes. Autant quand ça s'est passé le premier confinement, il y a eu les programmateurs, ceux qui m'aidaient à la production, qui m'ont tout de suite appelé. Ça, c'était assez rare, parce que d'habitude c'est l'artiste qui appelle le programmateur. Là, c'est les programmateurs qui m'ont appelé, qui m'ont dit bon, qu'est-ce qu'on fait, comment tu t'organises, comment on peut t'aider, etc. Ça, c'était incroyable. Et là, je me disais, tiens, il y a quelque chose qui bouge et qui va changer. Bon, assez vite, c'est revenu comme avant.
Ouais.
Par contre, entre les artistes, il y a quelque chose qui a bougé, et c'est clair. C'est-à-dire on se parle différemment. Enfin, il me semble, on se parle différemment et on s'entendait comme ça. C'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus détendu et beaucoup plus libre. C'est-à-dire qu'il y a un compte à soi qui se fait, qui est de défendre son travail, un peu comme ça. Et il y a une espèce de concurrence qui peut être parmi nous.
Pas toujours très saine, oui.
Et là, il y a quelque chose qui s'est lâché pour nous. Et voilà, on va voir le travail des uns, des autres. On se parle aussi du travail. Peut-être on n'aime pas, mais ce n'est pas grave. On peut dire aussi à la personne, ben voilà, j'ai pas aimé. Comment ça s'est passé pour toi? Avoir la bienveillance, avoir de l'écoute. Avoir du soutien aussi, même si on n'est pas OK avec le travail, mais au moins d'avoir traversé ça et d'avoir réussi à faire cette pièce-là, génial, quoi. Et nous, ça, pour nous, ça a bougé. Je ne pense pas que du côté programmateur, ça ait bougé. Enfin, programmateur vis-à-vis de nous, c'est revenu un peu comme avant. Mais il y a cette chose-là qui est assez... Et aussi l'engagement des danseurs. C'est-à-dire, dans ma création, là, j'ai vu comment les danseurs... étaient beaucoup plus impliqués avec eux-mêmes, avec les autres, entre eux, avec moi. Il y a quelque chose qui a bougé. Alors, peut-être le projet aussi était fait de telle façon que ça a permis ça, mais quand même, il y a une chose qui a changé, je trouve, du côté artiste.
Ok. Elsa ?
On était sous une cloche quand même.
Complètement.
Depuis mars 2020. Donc,
est-ce qu'elle a permis quelque chose, cette cloche ? Ou vraiment, c'est que du négatif ?
Moi, je trouve que c'est encore un peu tôt, peut-être, pour avoir des conclusions très claires. Parce que, entre ce que j'ai analysé, c'est que j'ai quand même l'impression que nous, intérieurement, on nous a remplis, on s'est remplis de cette peur archaïque de la mort, ou de l'abandon.
Ou de l'arrêt, ouais.
Et cette charge mentale, elle a rempli énormément d'espace. Et cet espace, c'était l'espace généralement qui est disponible pour l'apprentissage, pour la curiosité, pour la surprise, pour créer. Et voilà, et que pour rester dans la discipline et la rigueur du laboratoire de la recherche, il fallait avoir la force d'aller puiser sur cet espace. Et donc c'est pas si facile. Et Moi, je ne sais pas si, par exemple, tout ce que j'ai essayé de chercher, de sur quoi j'ai dansé, etc., est vraiment pertinent aujourd'hui. En fait, il a peut-être, ça n'appartient qu'à cette
période
et cet espace-temps que très particulier. Que maintenant, non, faut que je passe à autre chose. C'est pas très clair. Et ce que je vois aussi. Que maintenant, enfin, quand on a repris les projets, donc ça fait à peine 2 mois, hein, c'est que chez les habitants, pour le cas de District Dance, c'est que le lâcher prise, il a pas été aussi évident, parce que en fait, le fait de danser ensemble, c'est exactement ce qui nous est interdit depuis 1 an et demi.
Bah, c'est ça. On va y venir avec Sylvain.
Réunir des gens. Pour être dans une forme de loisir un peu sportif, parce que la danse est toujours en train de naviguer dans ces airs-là, dans un être ensemble où il pourrait y avoir du tactile, où on respire, bon, ben, bref, on a tout faux sur toute la ligne. Donc d'un seul coup, récupérer des gens, dire si, c'est exactement ça qu'on va faire, on va bien s'amuser, ça va être super.
Ouais, c'est compliqué.
Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Pour que, déjà, il faut une énorme confiance pour suivre l'aventure. Et c'est pas. Ce que Fabrice dit, qu'il a vu un engagement différent, moi je pense aussi qu'il y avait une sorte de paradoxe entre le fait de venir, puis d'un seul coup quand ça lâchait, paf, il y avait une sorte d'énergie un peu brute, quoi, presque surprenante pour eux-mêmes, de dire là j'ai en train de faire ça, c'est pas per... enfin, il y a quelque chose comme une permission, reprendre la permission de faire quelque chose, de s'engager corporellement, d'avoir un plaisir corporel tout bonnement, alors qu'il y avait une négation du corps, parce que ce corps faisait peur malgré soi. Oui.
Et on avait peur pour le corps aussi.
Enfin, exactement.
Tout tournait à tout ça.
Voilà, c'est un peu. C'est une reprise où je pense qu'il y a énormément d'enthousiasme, d'écoute et de solidarité, parce qu'on y est, est là, enfin. On arrive à le faire. Mais teinté d'étrangeté quand même.
Okay.
Et, ouais, je crois un peu d'inquiétude de savoir comment ça va résonner dans le temps.
Ok. Anne-Marie, vous avez dû gérer le stress de gens qui sont en formation. Alors, je ne sais pas, je t'attends, mais peut-être plus ou moins professionnalisante. Et ça veut dire des gens qui attendent pour pouvoir décrocher une espèce de passeport qui est une entrée dans une vie professionnelle, etc. Comment ça s'est géré pour vous ?
Ben, alors, je me retrouve un petit peu en dehors de ce que j'entends. On a essayé de réinventer la situation, en fait. Et j'ai mis à disposition, avec un planning bien particulier, les salles de travail, pour que les étudiants puissent faire des recherches, en fait, et leur laisser le temps nécessaire pour ça. Et j'ai sorti des petites perles, des choses magnifiques, absolument magnifiques. Et j'ai essayé d'être proche d'eux pour essayer de faire en sorte qu'il se passe quand même quelque chose, qu'ils cherchent quelque chose, qu'ils construisent quelque chose à travers la création, tout en sachant bien sûr qu'on ne savait pas du tout si cela pourrait être vu,
montré.
Mais on était parti sur ça. C'était très clair entre nous et tout le monde a fonctionné. Et en fait, je crois que d'être dans la création comme ça a tenu les gens hors de l'eau, un petit peu comme ça.
Okay.
Et donc, en fait, bien sûr, c'était compliqué. On a divisé les cours en deux. On a fait des carrés dans le sol de 4 mètres carrés pour qu'ils ne se touchent pas, mais ils se touchaient quand même. Hein, de toute façon, voilà, on a continué à travailler. Et puis on a attendu et puis voilà, c'est maintenant ils dansent.
Bah, très bien, très bien. Sylvain, clairement, vous étiez ici à Montpellier Danse en 2018 avec donc cette création que vous avez évoquée tout à l'heure qui s'appelait Sujet, qui avait bien remué les publics. Et cette année avec Nuit, vous avez réussi à dire avec une force que j'ai trouvée incroyable à quel point justement la fin des corps dansants, je ne sais pas si vous le diriez comme ça, la nuit, la fin des corps dansants la nuit, en fait, les interdictions liées, là on pourrait le lier au Covid, mais des interdictions, il y en a d'autres formes. Il existe des pays où c'est pas autorisé, en fait, par exemple, et c'est important aussi de le rappeler. C'est une aberration, finalement, cette amputation des libertés, en fait. Racontez-nous comment elle est née, cette création portée par 3 danseurs. Est-ce que c'est vraiment cette crise qui est à la genèse du projet, ou est-ce que c'est encore autre chose ?
Non, c'est encore autre chose. La pièce, elle a commencé à me travailler. En 2000, juste après cette création en 2018. Et elle est liée à une expérience que j'ai pu faire à Berlin, voilà, une expérience personnelle où j'étais tout seul. J'ai pu traverser comme ça quelques nuits berlinoises, seul, errer dans la nuit, à la sortie de club, voilà.
Et Dieu sait s'il y en a.
Pardon ?
Et Dieu sait s'il y en a à Berlin, des clubs.
Oui. Ouais, il y en a. Et là, j'ai découvert une... Enfin, ce qui m'a sauté à la gueule, entre guillemets, c'est une autre expérience du temps. C'est une autre expérience du temps. D'un coup, je découvrais et j'éprouvais un autre ordre du temps. Or, le temps, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup aussi en soi, parce que c'est... Le temps, c'est ce qui ordonne le monde. Pour moi, c'est ce qui ordonne le monde. Et il y a un ordre du temps. Il y a celui qu'on vit, voire même qu'on subit tous, un ordre écrasant, quotidien, qui est ce temps... Je vais dire, manière assez classique, mais un temps économique de production, d'information, d'hypervisibilité, d'une hyperlumière, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, la nuit est de plus en plus grignotée par ce temps-là.
Oui.
C'est pas un mystère, on voit bien que la nuit devient aussi un temps d'information, de consommation. On peut maintenant faire tout ce qu'on fait le jour, on peut le faire la nuit. Oui. Mais il y a quand même des espaces, il y a quand même des interstices dans lesquels on peut se glisser, il y a quand même des espaces où on peut se soustraire à tout ça. Donc cette pièce, elle a germé bien avant le Covid. Après, c'était effectivement assez frappant de voir que précisément la nuit, c'est un temps dont on s'est collectivement privé, dont on a été privé. Cette expérience-là du temps était... Tout d'un coup, impossible. Pendant le premier confinement, ma vie s'est réduite, comme tout le monde, à travailler et à reconstituer ma force de travail. Parce que je travaillais. Hein. Certes, j'étais chez moi, mais j'étais à élaborer mes projets, à passer les deux premières semaines. Ah oui, c'est rigolo, tiens, on va faire des apérosomes et tout ça. Bon, ça m'a très vite gonflé. Donc très vite je me suis remis au boulot, très vite il y avait des questions de production à gérer, il y avait une montagne de problèmes et je pense qu'on a tous vécu ça, de choses à résoudre. Et voilà, ma vie s'est réduite à ça, travailler et reconstituer ma force de travail. Or la nuit c'est l'inverse en fait, c'est se soustraire à ça, c'est pouvoir...
Réalimenter finalement aussi, pour tenir, pour... Comme si
aussi,
c'était...
bien sûr. Ouais, mais ça a été aussi une chose qui a émergé, c'est que la fête, la nuit, était aussi importante, était une soupape de vie et une soupape existentielle pour beaucoup de gens. Mais au-delà de ça, pour moi, la nuit et ce projet-là, il nous fait traverser ça. C'est un temps c'est un temps où on peut se soustraire à une certaine économie du corps,
ouais.
Où le corps devient quelque chose qui n'est plus... Mais ça rejoint ce qu'est la danse pour moi. Hein. Le corps n'est plus quelque chose de fonctionnel, d'efficace, voilà, n'est plus quelque chose qui... Les usages du corps ne sont plus des usages qui sont ni économiques, ni fonctionnels, ni informationnels, ni communicationnels, je ne sais pas comment le dire. Mais on invente des usages du corps. Alors ça me passionne, moi, et la danse pour moi elle est là, c'est inventer des corps, inventer des usages du corps, ça continue de me travailler, et c'est vers là que ma recherche se va et se poursuit. Mais d'emblée, dès qu'on a pu reprendre le travail en studio, moi d'emblée il était très clair que j'allais pas tordre justement ces usages du corps à des règles sanitaires, parce que ça devenait impossible. Enfin, c'était juste impossible à composer avec ça. Soit je travaille, soit je travaille pas. Donc on s'est travaillé, on était tous d'accord avec les équipes. Voilà, on le fait. Toute vie comporte la possibilité de sa fin. Donc
allons-y.
Voilà, allons-y. Alors après, effectivement, on m'a renvoyé que c'était irresponsable, que c'était inconscient, et qu'il valait mieux applaudir à 20h. J'étais pas là-dedans. J'étais plutôt à garder le lien avec ma pratique
On l'a bien senti en tout cas.
Voilà.
Elsa Descodins, on va parler ensemble de District Dance, qui est en soi une grande aventure à la croisée de plusieurs univers. Il y a une partie, la musique avec Cyril Pugliese qui est juste le poulpe chez nous ici, on le connaît comme étant le poulpe, on le connaît très bien à Divergence FM. Et puis donc on l'a évoqué tout à l'heure, vous avez dansé avec ces groupes qui sont des habitants de quartiers de la ville de Montpellier, donc ce qu'on appelle officiellement des danseurs amateurs, mais dans lesquels vous avez trouvé une réponse qui, elle, ne l'est pas amatrice en fait.
Oui, alors je voudrais quand même revenir sur le terme amateur, parce que comme plusieurs ici, on dit qu'on travaille avec des amateurs, mais à un moment, amateur, c'est-à-dire aussi non professionnel, en tout cas non payé.
D'accord.
Mais les amateurs de Anne-Marie Porras ou ceux qui travaillent avec Fabrice Romain-Lagom ou avec les miens, ce n'est pas exactement les mêmes profils. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que ce n'est pas les mêmes attentes forcément qu'il peut y avoir et les mêmes esthétiques. Donc moi, c'est plus... Voilà, parce qu'amateur, ça peut dire qu'ils sont déjà un peu friands ou curieux ou formés.
Pas du tout dans mon cas,
ils
ne
le sont pas du
oui.
tout.
Oui.
Enfin, ils peuvent l'être, mais c'est pas du tout un a priori. C'est-à-dire qu'a priori, non, ce sont des gens qui sont curieux et qui ont envie de vivre une aventure qui est celle de la création d'un spectacle. Et donc, nous, on parle d'un spectacle de danse parce que ce sont des chorégraphes qui sont les pilotes de ces aventures. Et donc voilà, donc on a travaillé, donc c'est quand même la cinquième année du projet.
Oui.
Donc c'est pas rien.
Non.
Sur la ville de Montpellier. On a travaillé sur des cycles, donc c'est le cycle de 3 ans. Là on est sur le deuxième cycle et on travaille sur Cévennes, Saint-Martin et Figueroles.
Oui. Voilà. Ce sont des quartiers, on va dire, aux identités fortes.
Exactement. Ce qu'on appelle aussi les quartiers politiques de la ville.
Oui, on va s'en passer.
Voilà. Et l'idée, c'est vraiment, pareil, moi, je n'aime pas trop le mot éduquer, il y a quelque chose d'un peu autoritaire, en fait. Moi, je pense plutôt que c'est une question de déplacement, en fait. En fait, si je reprends le fait que pour moi, la danse est une question de langage, ben, on a chacun un peu son vocabulaire qui est nourri de ses a priori, d'avoir vu, je sais pas, John Travolta, Claude François, les Claudettes danser, voilà, on a tous fait ça.
Oui, bien sûr.
Et de cet héritage-là qu'on a, ou malgré soi, ou parce qu'on a travaillé, d'un seul coup, on vient, on a une idée, mais on n'est pas formaté. Donc d'un seul coup, on réunit ce public et il faut qu'on se déplace vers eux, ils se déplacent vers nous parce qu'il leur faut quand même beaucoup de confiance pour dire, allez, je vais faire ce spectacle. En fait, je ne connais pas trop cette équipe, on y va.
Équipe d'artistes en plus.
Ouais, exactement. Et moi, j'aime beaucoup ce déplacement. Je trouve qu'il y a une sorte de prise de risque de chaque côté. Il y a un partage, il y a une écoute très forte de chacun pour construire ensemble, parce que c'est quand même des formes participatives de création, et pour aller jusqu'à la présentation plusieurs fois de pièces, et sur des temps courts, puisque normalement, on crée sur à peu près 18 heures, 9 séances de 2 heures. Là, c'était encore plus court en termes de temps, parce que sur un mois et demi, donc c'est très volatile.
Oui.
Et voilà, je suis très contente. Et en plus, on a été accueillis par le festival. Donc comme ça, dans cette période très agitée, c'était très bien.
Bon, super. Alors, je crois que nous quittent Anne-Marie Porras et Sylvain Huc, qui disent au revoir et merci en langue des signes.
Merci.
Presque, mais je vous en prie, merci à vous. Merci Anne-Marie.
J'espère que j'aurai une bonne note, que j'étais présent.
Il y a un peu de provoque de la part de Sylvain Huc, mais c'est d'accord. Et puis,
merci beaucoup.
Merci à vous. On va finir, Fabrice. J'ai très mal géré le temps sur cette émission. Il y a des jours comme ça. Fabrice, il faut reprendre le micro parce qu'on va quand même finir ensemble sur ce frérocité qui était quand même sacrément dépotent. Alors, c'est vrai, c'est des danseurs professionnels mélangés à des danseurs amateurs, mais c'est vrai, Elsa complètement raison quand elle dit que c'est quand même pas la même démarche. J'imagine que là, c'est des gens volontaires.
C'est des gens volontaires, c'est des gens
qui répondent à un appel.
Qui prennent des cours de danse, qui sont déjà... qui vont voir des spectacles, qui sont aguerris, qui savent qui je suis. Donc, c'est pas du tout la même démarche qu'Elsa, qui est beaucoup plus dans les racines, dans le défrichage. Moi, je récolte un peu les gens qui ont déjà fait une aventure.
Et puis une équipe incroyable quand même sur Frérocité avec Pierre-Yves Massé qui fait la musique.
Oui, c'est ça. Oui.
Un danseur dont le nom m'échappe là tout de suite, qui est plus âgé.
Jean Rochereau.
Merci.
Alors Jean Rochereau, il a travaillé
qui
avec...
Qui a une présence incroyable sur le plateau.
Oui, mais il était déjà dans une de mes premières pièces qui s'appelle Postural Étude, où j'avais justement rassemblé et des danseurs amateurs. que des hommes de différentes générations. Donc j'ai essayé de questionner la fraternité déjà avec cette pièce-là, ouais, et là c'est frérocité.
C'est un sujet qui vous tient.
Oui, c'est ça.
Que vous travaillez.
Que je questionne, ouais. Et là la frérocité, c'était aussi un hommage à Posturalitude, à la fin de Posturalitude, et je voulais finir vraiment avec Jean, qui a 77 ans, qui a travaillé avec Béjart, Blaska, Bagoué, et qui détient dans son corps.
Et c'est fou parce qu'en fait, tout à l'heure quand vous avez parlé de la grande leçon de danse en fait, et que vous avez décrit ce vieux monsieur qui d'un coup a pris toute la place en fait. Et comme j'ai vu frérocité en fait, je me suis dit mais il l'a pompé.
Mais en fait, ce souvenir-là, c'est pas là les grandes leçons de danse. Hein, c'est une chose qui m'est arrivée quand j'avais 30 ans et que je donnais des cours dans le nord de la France.
Okay.
Ouais, mais non, Jean Rochereau, oui, c'est ouais, ça. Jean Rochereau, je projette aussi tout ce que j'ai pu faire comme expérience sur cet homme-là, qui est à la fois mon double et aussi peut-être le futur que j'espère de moi. Danser encore à 77 ans et se réjouir, il est tellement
solaire en fait.
Solaire. Il est prêt à l'aventure.
Il
quoi.
Est plein de force.
Ouais.
Écoutez, merci vraiment. Merci. On est obligé de rendre l'antenne. En fait, c'est aussi les aléas du direct. En fait, merci à Bruno Bertrand beaucoup. À la réalisation de cette émission, ainsi qu'à toute l'équipe du Festival Montpellier Danse pour cette proposition de coproduction. Pour ma part, je vous retrouverai pour la troisième et dernière émission au cœur du festival. Ce sera lundi prochain, le 12 juillet à 11h. Et cette émission sera consacrée à Cinémagora. Nous recevrons Florence Plataré, Christophe Petro, Marie-Hélène Rebois, Nathalie Masduro, Valérie Urrea, qui sont toutes et tous des réalisatrices et réalisateurs de films documentaires. Prenez bien soin de vous d'ici là.
Le public n'a pas, comme dans les autres arts, une connaissance suffisante de l'histoire de la danse.
Au cœur du festival.
C'est le festival, bien sûr.
Et c'était Dominique Bagoué, Jean-Paul Montanard.
Chorégraphe, danseur, danseuse, réalisateur, réalisatrice.
Montpellier, c'est une ville de danse. C'est un moment intense, charnel.
Au micro de Divergence FM. Pour la 41e édition du Festival Montpellier Danse.
Malingon, Sharon Eyal, Bagoué, Mathilde Manier, Christian Rissou. À quelques jours de l'ouverture du festival, je vois bien que quelque chose va se passer.